Hello à tous et bienvenue sur le podcast La tête en mer. Ce podcast partage les récits de plongeurs, ces femmes et hommes qui vivent des expériences incroyables sous l'eau. Nous parlons de leur parcours, de leur témoignage de la vie marine et des plongées exceptionnelles qu'ils réalisent. Un voyage autour du monde et la tête en mer assurée. Je suis ravie d'accueillir sur l'épisode numéro 14 de La tête en mer, Marine et Théo, un couple que j'ai eu la chance de rencontrer à Koh Tao et pour qui la plongée a clairement changé leur vie. Ils parlent de coups de foudre instantanés dès leur première immersion à Sumatra en Indonésie et nous racontent comment leurs plans de vie ont été bousculés par l'envie de dédier une part énorme de leur temps à la plongée et au monde marin. Ils nous racontent tous les impacts que la plongée a eu sur leur couple, sur leur carrière professionnelle et aussi sur leur bien-être dans la vie. Je vous laisse découvrir leur témoignage et ce tout premier épisode avec deux invités. Bonne écoute et plus que jamais, je compte sur vous pour partager et parler du podcast un maximum autour de vous. Si vous êtes sur Apple Podcast, n'hésitez pas à mettre une note sur iTunes, cela aidera à faire remonter l'épisode dans les résultats. Merci à tous.
Salut Marine et Théo, comment ça va au Mexique?
Et salut. Coucou, bah écoute, super. Hein,
chaudement.
Chaudement.
Vous êtes où exactement du coup?
Alors on est à Mahahual, qui est du coup un petit village de pêcheurs qui est aussi port d'accueil de bateaux de croisière sur la Costa Maya. Donc on est à 5 ou 6 heures de Playa del Carmen et Tulum et de tout ce hotspot sur la Riviera Maya, dans un endroit qui est malgré tout un petit peu plus calme. Oui. Et un petit peu plus sauvage.
Voilà,
un peu plus. Et qui est un bon spot pour la plongée.
Voilà.
Très sympathique, oui.
Nous, on est là entre autres parce qu'on juste à côté, à une heure de navigation, on a la chance d'avoir un spot qui s'appelle la banque de Chinchorro, donc le récif de Chinchorro, qui est l'un des plus beaux spots des Caraïbes. Donc voilà, beaucoup de vie, beaucoup d'épaves, du requin, du gros, enfin bref. Des beaux tombants, tout ce qu'on aime.
Voilà. Pour bien faire. Ah. Trop cool. Bon, bah, génial. Bah, je suis ravie de vous retrouver depuis notre première rencontre à Koh Tao en Thaïlande.
Exactement.
Ouais. Ça remonte. Ça remonte.
Ça fait souvenir, ouais.
Ça fait 4 ans, bien 4 ans, c'est ça.
3 ans. Si exactement 3 ans.
Voilà. Quand on était encore tout jeune accro aux bulles.
Ouais, c'est ça. Bah, on était tous. Alors pour moi, c'était ma première fun dive, donc ma première plongée après le niveau 1, donc l'open water. On avait été sur un super spot qui s'appelle Sail Rock. Je pense que vous
vous souvenez. Tout à fait.
Oh oui.
C'était, comment oublier Sail Rock?
Ah ouais. C'est un rocher qui sort de l'eau en plein milieu de la mer où il est pas rare de croiser des requins baleines. Bon, pas de bol, la veille et le lendemain de notre sortie, je sais qu'il y a d'autres gens qui avaient vu des requins baleines, mais nous, non.
Toujours comme ça.
Non, c'est
toujours comme ça.
Mais je me souviens que ce jour-là, mon instructeur m'avait dit, en même temps, si à ta 5e plongée, tu vois déjà un requin baleine, ce serait quand même un peu abusé. Attends d'avoir un peu de plongée et ensuite...
C'est pas très juste d'être obligé comme ça, ouais, non, c'est pas très juste... Il faut prendre le temps, il faut le mériter. Bon,
c'est ce qu'ils disent pour te faire patienter. Il y a tellement de belles choses à voir outre le requin baleine. Que...
C'est sûr. Ah, c'est vrai.
C'est clair. Et du coup, sur le bateau, on a eu le temps d'échanger un petit peu. Vous m'aviez expliqué que vous étiez parti pour faire un road trip en Asie du Sud-Est et que quelque chose vous avait un petit peu stoppé, un petit peu arrêté dans votre élan de backpack et de voyage. Et ce quelque chose, c'était du coup la plongée. Donc, comme tu disais, ouais, Théo, il y a 3 ans, vous étiez encore assez novice. Donc, vous m'expliquiez que vous aviez tout un budget pour ce voyage qui finalement était très rapidement passé dans la plongée. Et mince, plus trop de sous pour continuer le voyage. Mais c'est pas grave, on continue de plonger. Du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu cette découverte pour tous les deux? Vu que ça paraît un peu fou de se dire, tant pis pour le projet de voyage, on arrête le road trip et finalement, on fait que plonger parce que c'est ça qu'on kiffe, quoi.
Alors, je repréciserai, c'est pas tellement qu'on a arrêté le voyage, c'est qu'on a recalculé les plans de destination.
Okay.
C'est-à-dire qu'en fait, on avait des pays qu'on avait prévu de faire, mais qui n'avaient pas forcément de façade maritime ou pas de reconnue sur la plongée. On a juste réaxé notre voyage autour de la plongée.
Et réorienter notre économie, effectivement, autour de la plongée, puisque c'est une activité qui coûte un peu cher. Donc, on a, disons, sacrifié pas mal d'activités, pas mal d'envie qu'on avait sur ce voyage pour tourner entièrement notre économie. Exactement. Vers la plongée. Ça, c'est
une
sûr.
Histoire qui commence il y a fort longtemps dans une île appelée Pulauwe à Sumatra. Une addiction est née.
C'était plus ancien que quand on s'est vu en 2019, alors, cette découverte de la plongée.
Oh non,
c'est de quelques mois plus ancien.
Quand on s'est rencontrés, ça faisait 8 mois à peu près. On était partis en avril. Donc, c'était avril
18,
c'est ça? Oh là là, oui, mon Dieu, ça rajeunit pas.
C'est difficile.
Voilà, on est parti. On a fait un premier mois sur le Sri Lanka où on s'est régalé. On a vraiment passé un très beau moment. Et le deuxième mois, on a atterri en Indonésie. On s'est dit, tiens, quand même, l'Indonésie, ça fait rêver un petit peu, la mer, tout ça. Pourquoi on ne ferait pas un open water? Donc, on est arrivé à Pulauwe, sur cette petite île du nord de Sumatra, qui est peu fréquentée parce que c'est une zone où il y a la charia. Donc, ce n'est pas toujours la zone la plus attractive pour les touristes, surtout pas les backpackers, etc. Et en fait, là-bas, la mer est juste extraordinaire. Et moi, je savais qu'il y avait possibilité de voir des requins. C'était quelque chose qui m'avait toujours beaucoup attirée. J'étais curieuse. Alors, l'open water, ça a été un petit peu, une épreuve pour moi, parce que j'avoue que même si j'ai toujours été habituée à la mer depuis petite, etc., passer la frontière de la plongée en bouteille, du moins, c'était quelque chose pour moi. Et au final, on s'est lancés tous les deux avec Théo et ça a été un coup de foudre, mais instantané. À la deuxième plongée de l'open water, on savait déjà qu'on était mordus et que on n'allait pas en rester là. On était prêts à en découdre.
C'était un déclic, ouais, sur les premières plongées, quoi.
Ça a été instinctif. Dès qu'on a pris en main le matériel, qu'on s'est senti à l'aise, qu'on a compris comment maîtriser notre plongée, et surtout, quand on a découvert le monde qui nous ouvrait les bras, le monde extraordinaire, le monde marin extraordinaire qui s'offrait à nous, on a arrêté de voir le monde en une seule dimension, juste la partie terrestre. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup plus que ça et que on voyagerait plus jamais de la même façon. C'est arrivé très vite. Ouais.
Ouais, je vois très bien ce que vous voulez dire. Ouais. Et du coup, pendant ce voyage, vous avez plongé où, du coup?
Alors, on a plongé sur Sumatra, donc à Pulauwe. De là, on est parti sur Sulawesi, donc dans le nord côté Manado, où on a plongé dans les îles Bunaken et dans les îles Togian dans le golfe de Tomini.
Je me permets de rebondir là-dessus parce que voilà, on est parti dans les Sulawesi parce qu'on voulait faire un volontariat. En fait, on avait construit le voyage quand même de manière à faire pas mal de volontariat et on faisait un volontariat avec une ONG locale de protection maritime, donc une ONG indonésienne. Et donc ça a été un moment très intéressant pour nous et ça nous a permis aussi de plonger dans des endroits extraordinaires parce que les Sulawesi, c'est juste au-delà de tous les mots, quoi, clairement. Je te laisse continuer.
Non, voilà, après on est allé sur les destinations où beaucoup de plongeurs se retrouvent, c'est-à-dire Thaïlande, Philippines également, donc Thaïlande côté Ko Phangan et la mer d'Andaman sur la côte ouest, et les Philippines sur différents endroits que je ne vais pas détailler parce qu'il y en a tellement, il y a une telle diversité aux Philippines, mais voilà, on a passé un mois à peu près dans chaque pays à accès majoritairement à 80-90% plongé.
Je rajoute également, on a eu la chance de passé quelques temps aussi sur Bornéo, sur la partie malaise pour le coup, où, parce qu'on avait, on a très vite entendu parler, c'est un petit milieu, hein, la plongée, tu le sais, et c'est surtout une histoire de rencontre, et très vite les gens nous ont dit, vous aimez plonger, vous aimez, enfin moi particulièrement, j'avais quand même un truc avec les requins, et les gens nous ont dit, allez à Sipadan sur Bornéo, vous ne serez pas déçus du voyage, c'est un très beau spot. Et donc, on a passé un peu de temps dans ces îles-là, donc Sipadan, Mabul, Kapalai, pardon, et ces zones-là qui sont aussi extraordinaires, bien que très, très impactées par la pollution, malheureusement.
Ok, et du coup, là, pendant toute cette période-là, pendant tout ce voyage-là, qu'est-ce que vous avez juste passé votre Advanced Open Water? Vous étiez déjà dans une démarche de vouloir faire plus avec la plongée?
Alors, on a passé notre Advanced Open Water, on a passé très vite, même avant l'Advanced, notre possibilité de deep dive pour voir des sites un petit peu plus profonds que 18 mètres. On avait une petite idée, mais très vague, c'était plus un petit amour du lifestyle d'instructeur de plongée, mais on n'y était pas tout à fait encore. Et on a passé un rescue, mais plus par rencontre, parce qu'on a rencontré un instructeur qui était vraiment quelqu'un de formidable, qui est un ami, quelqu'un d'une soixantaine d'années, et qui était là au moment où on s'est dit ce serait bien de faire le rescue. Mais on n'était pas encore dans une démarche de professionnalisation, parce que on voulait déjà se prendre de l'expérience et puis s'améliorer nous-mêmes sur notre plongée avant de penser à une professionnalisation.
C'est sûr que voilà, cette personne, ça a été plus un modèle pour nous, vraiment un exemple. C'est quelqu'un qui a une connaissance incroyable, une grande sensibilité, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expérience. Et on s'est dit que c'était dommage de ne pas profiter de cette occasion pour récupérer un petit peu des petits bouts de ce savoir et en profiter pour se former et gagner en confiance sur notre plongée et sur notre sécurité en plongée surtout.
Carrément. Mais ouais, c'est sûr, comme tu disais, c'est en effet un petit monde de la plongée, j'ai l'impression. Et c'est sûr que quand tu as l'occasion de traîner un petit peu dans les centres de plongée, je trouve, après ou avant ta plongée, tu entends toujours des histoires un peu de fou de la part des instructeurs, de la part des plongeurs. Et en fait, j'ai l'impression que c'est vraiment que des gens passionnés, quoi, donc qui pourraient rester des heures et des heures après t'avoir emmené en plongée, discuter avec toi et t'en dire beaucoup plus sur leur univers. Donc, en effet, je trouve ça toujours intéressant d'échanger avec des plongeurs, et ça vaut le coup de rester quelques minutes, quelques heures de plus à papoter au centre avec eux.
Oh oui. Ça, c'est sûr, on a cette vision, nous, de la plongée. Si tu veux, les gens se disent, une plongée, c'est quoi? C'est une immersion, tu ressors et puis c'est fini. C'est pas vrai. Tout ce qu'il y a autour pour nous, ça a parfois plus de valeur. Les rencontres, les échanges, tu rencontres des gens avec des profils extraordinaires et puis des belles personnes, clairement, quoi, des gens avec qui on est heureux de partager ces moments-là. Et les liens que ça crée autour de ça, pour nous, ça n'a pas de prix, quoi, ça c'est sûr.
Et du coup, donc ce voyage, je crois qu'à un moment donné, il avait une fin, que vous êtes revenu en France. Du coup, en quoi ce voyage et ces plongées ont chamboulé votre vie, que ce soit votre vie perso et votre vie pro? Est-ce que le retour en France était différent de par cette découverte?
Ah oui, plus rien n'a été pareil. Disons qu'on ne s'attendait pas, en rentrant en France, à s'acheter tout le matériel et à aller s'immerger dans une eau à 15 degrés en revenant des tropiques. mais la passion était trop forte pour ne pas le faire de toute façon.
Ça, c'est clair. Et là-dessus, j'en profite un peu pour rebondir, mais on nous avait tellement dit, oh là là, vous venez de passer un an à plonger en Asie, vous allez rentrer à Montpellier, parce que nous, on est du sud, on est de ce côté-là, vous allez voir, c'est quand même pas la même, etc. Et en fait, la première immersion qu'on a fait, c'était à 4 mètres de profondeur, avec peut-être 2 mètres de visibilité, 18 degrés. Donc, ça fait un choc, c'est sûr, par rapport aux tropiques. Mais on est sorti de là avec des étoiles dans les yeux.
Ça a été la découverte d'une... On commençait à se familiariser pas mal à la faune indo-pacifique. Et en fait, on a découvert une toute nouvelle faune qu'on ne connaissait pas forcément. Peut-être marine un petit peu plus, mais moi, beaucoup moins sur la Méditerranée. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il n'y a pas de comparaison à faire et que chaque endroit a ses spécificités, chaque endroit est unique en son sens. Et de là, ça a déroulé sur d'autres plongées en France et sur encore plus d'addiction à ce sport, si j'ose dire.
Bah, c'est vrai que surtout en tant que couple, il y a un truc où tu tires un peu là-dedans, quoi. On s'est un peu tiré dans les abysses de la plongée, on va dire, entre effectivement l'achat du matériel, puis le fait, à chaque fois qu'on entendait parler d'une destination, « Oh, je te rends compte, on pourrait aller là, ce serait extraordinaire, il paraît qu'on peut faire ci, on peut faire ça. » Enfin bref, il y a vraiment tout un univers qui découle de ça. Alors, même peut-être un petit décalage qui s'est créé avec nos amis, parce que voilà, on est revenu d'Asie un petit peu, comment dire, un peu junkie, hein, faut pas se leurrer, parce que c'est qu'on parle quand même d'une addiction un peu forte, une addiction dure. Et pour le coup, on s'est rendu compte que voilà, on était en train de partir dans un autre monde. On n'a jamais été des personnes très communautaires, et au final, on s'est retrouvé à l'être de plus en plus, parce que la plongée, ça crée un réseau, et c'est vrai que les gens avec qui tu partages ce genre de choses, bah forcément, quand ça prend une place aussi grande dans ta vie en tant que passion, ben, ça crée des liens d'un point de vue perso aussi important, quoi.
Donc, ça nous a donné un objectif de vie qui a complètement supplanté ce qu'on avait avant de découvrir cette activité. C'est arrivé au premier plan.
Très rapidement, très, très rapidement.
Qu'est-ce que vous faisiez avant le voyage et quelles sont devenues vos nouvelles priorités, vos nouveaux projets après ça?
Alors, Moi, si tu veux, je suis passée par pas mal de choses différentes, hein. J'ai eu ma boîte d'événementiel et de réception pendant pas mal d'années. Et déjà à l'époque, bon, j'ai toujours été sensibilisée, hein, à la protection du milieu maritime et tout. J'ai des parents qui sont plaisanciers. Je suis sur un bateau depuis que je suis petite. Mon père est chasseur au harpon, etc., chasseur sous-marin. Et en fait, j'avais déjà à l'époque organisé quelques événements, bah, entre autres avec Sea Shepherd, où j'ai eu l'honneur de recevoir Paul Watson, pardon, pour une conférence. Une autre avec Air Force Fight Squad, donc EFS, Jerry Pélican, où on avait organisé une conférence et une projection de film autour des requins avec l'expert international Alexandro de Maddalena. Donc il y avait déjà ça dans les tuyaux. Et moi, quand je suis partie en Asie, j'étais dans quelque chose d'assez différent puisque j'étais commerciale dans un domaine viticole. Quand on est rentré, de mon côté en tout cas, je ne pensais pas pour autant me réorienter complètement dans le milieu marin, mais par contre, ça a renforcé ma volonté au quotidien d'être militante et de m'engager auprès d'associations locales. Mais je vais laisser Théo parler de son cursus pro.
Oh, c'est beaucoup plus simple. Moi, j'étais en ingénierie sonore, donc je travaillais beaucoup en radio et beaucoup dans le milieu du tourisme sur de l'animation, que ce soit animation enfant ou senior sur du club vacances. Donc, j'avais déjà un petit peu cette fibre quand même touristique. Voilà, ça a juste réorienté mes objectifs de vie perso, en fait. C'est-à-dire que sur le professionnel, avant de considérer une professionnalisation en plongée, en fait, je considérais vraiment la plongée comme quelque chose de très personnel, mais vers lequel je voulais tendre. Et du coup, il fallait bien se donner les moyens de pouvoir tendre vers ça, on va dire.
Trop chouette, Rochelle. Et du coup, donc là, quand vous êtes revenu sur la France, vous aviez tous les deux quitté vos boulots, j'imagine, avant de partir en voyage. Ouais, et du coup, donc quelles ont été les actions que vous avez entreprises? Est-ce qu'il y a des gros changements de suite que vous avez initiés, ou bien voilà, ça prend quand même plus de temps. J'imagine que c'est quand même un switch important à mener dans sa vie que de se dire ok, c'est bon, j'arrête tout, soit je deviens instructeur de plongée, soit je m'engage dans une asso à temps plein. Voilà, je le sais que moi c'est des envies que j'aurais par exemple, mais le changement n'est pas toujours facile à faire rapidement. Donc, comment vous avez initié tout ça?
Bah écoute, comme tu dis, nous quand on est revenu, on n'avait plus rien, on avait coupé les attaches pour ce voyage, pour ce départ. Donc disons qu'on avait la voie libre à beaucoup de choses. Ce qui s'est passé par contre, quand on est revenu avec Théo, je pense qu'on est, on est tous les deux d'accord là-dessus. On ne voulait pas suivre ce modèle PADI entre guillemets du from zero to hero, qui est un peu un cursus qui est un peu survendu par ce genre de fédération et auquel on n'adhère pas. Parce qu'on considère qu'être instructeur de plongée ou travailler dans ces milieux-là, c'est quand même avoir une certaine expérience et pouvoir apporter une certaine sécurité à des personnes. Et je pense qu'au bout de 100 plongées, même en étant rescue, comme on l'était, on n'est pas apte à faire ça. On peut l'être à travers une professionnalisation, mais on avait quand même envie de tâter un peu plus le terrain, quoi, de manger plus d'expérience, de faire plus de plongées, de voir si c'était quelque chose qui était viable sur le long terme, si ce n'était pas juste un coup de cœur un peu éphémère, un peu éclair et qui ne durerait pas sur la professionnalisation. Donc, notre première priorité, ça a été déjà de se refaire, parce qu'on revenait d'un an de voyage et qu'on avait besoin de moyens financiers, ça c'est certain.
Tous les sous étaient partis dans les plongées.
Pour repartir, bien sûr.
Exactement. Oui. Effectivement, avec cet objectif au loin de replonger, hein, et de se refaire découvrir, d'avoir l'opportunité de découvrir de nouvelles zones. Et donc, la première chose qu'on a fait, c'est effectivement de continuer à plonger, de découvrir le système français et de faire de la plongée avec la Fédération française un peu pour voir comment ça se passait. Et de remettre de l'argent de côté avant de repartir de nouveau très rapidement, puisqu'on a fait une saison tous les deux. Et puis, on s'est retrouvés en octobre à repartir en Égypte pour un nouveau trip plongée, bien plus court celui-ci, hein, puisqu'on est parti une quinzaine de jours, je crois, 3 semaines. Mais très intense aussi. Voilà. Et là, quand on est revenu de ce voyage-là, on était sur une croisière, donc sur le triangle d'or, Rovers, Dédalus et Elphinstone, qui sont 3 récifs de plaine de haute mer en Égypte, qui sont très réputés pour, entre autres, les pélagiques, hein, donc les requins, etc. Et puis, Bon, c'est des paysages à couper le souffle, quoi qu'il en soit. Là, quand on est revenu de cette aventure humaine aussi, parce qu'on a passé plus d'une semaine sur un bateau avec une équipe de gens qu'on n'aurait jamais imaginé rencontrer autrement. Théo m'en parlait hier, et c'est vrai, il a raison. C'était avec des gens de milieux sociaux complètement différents, des Belges un peu plus âgés, qui avaient des niveaux CIMAS incroyables, des backpackers, des Argentins. Enfin bref, c'est une mixité sociale extraordinaire. Et ce qu'on a vécu ensemble, c'était tellement fort que quand on est rentré, on s'est dit « bon, il faut qu'on arrête de se voiler la face, on va essayer de faire les choses bien, on a tous les deux envie de bosser dans ce milieu-là, peut-être pas dans les mêmes branches, mais on a envie d'avoir un lien plus étroit, plus important avec la plongée, et on va essayer de s'en donner les moyens. »
Génial, trop bien. Et c'est de... Alors, tu disais, Marine, toi, tu avais déjà été pas mal sensibilisée et active dans le milieu de la protection du monde marin, choses comme ça. Est-ce que, du coup, c'est à partir de là que vous avez commencé à vous engager, à vous investir dans des associations? Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des actions que vous avez menées?
Alors, oui, bon, là-dessus, ce sera... Comment dire? Effectivement, nous, si tu veux, quand on est rentré, moi, ça faisait pas mal d'années que je cherchais à m'engager auprès d'assos locales. Donc, d'où ces événements hein, qu'on avait fait, que j'avais fait avant. On avait participé en Asie à pas mal d'actions aussi. Donc, avec l'ONG dont j'ai parlé, plus avec des actions un peu plus ciblées, des nettoyages, etc.
Hein, oui, nettoyage de rifs, nettoyage de plages. Ouais. D'ailleurs, je me demande si tu n'étais pas là, Audrey, quand on avait fait le nettoyage de rifs à Kota Ousi.
Si,
c'était encore sur l'île, je crois.
Ouais.
Non.
Avec New Way, avec l'école dans laquelle tu étais.
Oui, c'est ça.
Oui, je crois que c'était juste. Je crois qu'ils en avaient un par mois. Et moi, quand j'y étais, c'était passé déjà. Donc, je ne l'ai pas fait. Ou j'étais encore en open water, encore en formation, et j'avais pas le droit.
Suite à la tempête qu'ils ont eue sur le golfe de Thaïlande.
C'était tout ça,
oui. De récifs.
C'est ça. Et donc, en fait, en rentrant, j'ai continué un petit peu à mener des missions avec Air Force Fight Squad, mais comment dire, j'étais seule sur le terrain et je commençais à en avoir sérieusement assez d'être seule, entre guillemets. Enfin, seule, disons qu'on n'était pas une équipe, il n'y avait pas ce côté un petit peu pour se soutenir, etc., puisque Jerry est loin, malheureusement. Et donc, j'ai rebondi assez rapidement avec l'asso Aileron, dans laquelle on est rentrés tous les deux. Et ça s'est fait très rapidement, parce que c'est une asso, à mon sens, très, 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 très dynamique.
Extrêmement dynamique.
Ouais. ils sont très productifs.
Il y a une équipe
extraordinaire. Ouais. Et enfin, j'ai pu m'engager au sein de projets avec Aileron, grâce à Aileron, où on était plusieurs, où il y avait vraiment une dynamique entre nous. Voilà, on est tous passionnés par les mêmes choses, on a les mêmes valeurs. Et j'aime beaucoup l'ambiance qui est très, très bienveillante. Et on m'a donné les moyens concrets de m'engager sur des projets qui me tenaient à cœur. Ceux sur lesquels je me suis le plus engagée personnellement, c'est le projet Grand Large, entre autres, qui donc porte sur le requin peau bleue de Méditerranée, qui est en danger critique d'extinction, je le rappelle. Et Aileron travaille main dans la main avec des fédérations de pêche, la FNPP entre autres, pour essayer de récolter un maximum d'échantillons, puisque le requin peau bleue, il est très présent sur nos côtes, puisqu'il vient souvent se reproduire, il vient se reproduire au printemps sur nos côtes, etc. Mais on n'a pas du tout de connaissances, ou très très peu, sur ces populations-là, en fait. Il y a quelques requins qui ont été tagués il y a des années par d'autres associations, etc. Mais depuis, il n'y a pas de suivi officiel et il n'y avait jamais eu d'enquête génétique sur ces requins-là. Donc, Aileron a mené la première, après 5 ans de récolte d'échantillons d'ADN avec les pêcheurs plaisanciers. Et ça a permis de confirmer de manière génétique que cette branche du requin peau bleue, la branche méditerranéenne, est effectivement en danger critique d'extinction, avec un effondrement génétique probable, parce que malheureusement, plus assez d'individus pour une reproduction saine au sein de la population. Voilà. Donc ça, il faut savoir qu'aujourd'hui, on est sur une espèce qui n'a aucune protection officielle en France, hein, par exemple. Donc, c'est quelque chose d'assez critique. Et il y a une sorte d'omerta de la part des gouvernements locaux aussi, parce que personne ne veut qu'on parle du fait qu'il y a des requins sur ces zones-là, en fait. Ils préfèrent... Je pense qu'il y a la mauvaise image, il y a le délit de faciès du requin qui joue, et les gens ne veulent pas que les touristes potentiels soient au courant qu'on a des requins chez nous, tout simplement. Ce qui est très dommage parce que moi, je suis vraiment hallucinée de voir que dans le monde entier en ce moment, bah, là au Mexique, on le voit clairement, hein, il y a cette dynamique de dire un requin vivant rapporte plus qu'un requin mort, puisque bah, le tourisme qui se crée autour du requin peut être très bénéfique, même pour le tourisme local, etc. Et chez nous, il y a ce truc-là de non, surtout, ne dites rien, s'il vous plaît, on ne va pas parler de plongée requin chez nous, vous ne voudriez pas faire peur aux gens quand même. Voilà.
Exactement, j'ai entendu la même chose sur des zones en Bretagne où en fait c'est bourré de requins, mais on ne le dit pas pour ne pas effrayer les touristes.
Exactement, c'est très triste.
Assez dingue, quoi. Ouais, on est loin encore, je pense, d'accepter ce genre d'animaux autour de nous et de faire en sorte de vivre avec, quoi. Et en effet, comme tu dis, d'essayer de détourner ça, en fait, et d'utiliser finalement leur présence. À un avantage touristique, mais pour ça il faut quand même, j'imagine, créer un cadre, bien gérer le réseau, enfin le flux de touristes qui peut venir voir ces requins et essayer de bien faire les choses, quoi.
Tout à fait, mais pour moi c'est vraiment une grande tristesse de devoir aller à l'étranger pour voir ces animaux alors que je les ai chez moi, je le sais, hein, et qu'on pourrait faire quelque chose autour de ça et que ça ne se fait pas. Et c'est vrai que moi, un truc qui m'a vraiment mis un gros coup de pied pour m'engager plus quand on est rentré, c'est d'arriver chez nous à l'époque à Port Camargue, au Gros du Roi, et de voir le nombre de restaurants qui vendaient du requin. Chose qui m'avait choquée en Asie, et en fait, c'était la même chose chez nous. De voir qu'à la criée, quand on sortait un requin, tout le monde venait s'extasier en disant « Waouh, regardez, une femelle de 3 mètres, waouh !» Alors que bon, c'était les derniers individus reproducteurs de la zone. Ça, franchement, ça a été un shot de réalité dont je me serais largement passée, quoi, clairement. Mais ça m'a donné la force aussi de m'engager et de me dire que j'avais envie de faire un maximum pour que les choses changent, quoi, là-dessus.
Et ça, je comprends. Voilà. Du coup, cette connaissance, vous l'avez acquise au travers d'associations, et donc là, comme tu disais, en particulier d'asso Aileron. Est-ce que vous avez également appris et constaté des choses sur le milieu marin en plongeant, en allant vous-même sous l'eau, en allant vous-même voir qu'est-ce qui se passe dans les différents océans du monde? Comme vous disiez, ouais, je suis carrément d'accord avec vous que chaque plongée est différente, et moi, j'arrive aussi à m'extasier sur une plongée en Méditerranée, tout comme en Thaïlande. C'est pas que dans les tropiques que les plongées sont incroyables. Et c'est parce qu'on voit aussi que ça rend la plongée un peu fofolle. Du coup, ouais, la question c'était est-ce que vous avez constaté des choses en allant vous-même sous l'eau, quoi ?
Quasiment tout. Pour ma part, quasiment tout, mis à part les choses qu'on connaissait au préalable, si tu veux, qui sont un petit peu de culture générale du monde marin. Mais c'est vrai que quand tu fais tes premières immersions, que tu passes une heure sur des bouquins d'identification derrière, que tu t'intéresses sur les comportements, que tu dis « tiens, cette petite bestiole est mignonne, j'aimerais bien la trouver, où est-ce qu'elle vit, qu'est-ce qu'elle mange, qu'est-ce qu'elle fait de sa vie ?» Et en fait, toutes ces questions-là, ça amène à forcément une meilleure connaissance du milieu marin. Ce qui est assez drôle d'ailleurs, parce qu'il y a des conversations incroyables avec des plongeurs sur de la biologie marine qui ne sont pour autant pas scientifiques ni biologistes. Donc effectivement, il y a vraiment une orientation de la doc et des lectures autour de la plongée et du monde marin, en tout cas pour notre part, parce que ce qui nous plaît surtout en plongée, outre la sensation et le fait incroyable de respirer sous l'eau, c'est quand même ce qui y vit, quoi. Je sais qu'il y a des gens qui sont plus sur l'aspect technique, mais nous c'est vraiment l'aspect monde animal, en tout cas, et végétal sous l'eau, du coup le vivant sous l'eau, on va dire, qui nous passionne. Donc si forcément il y a énormément de connaissances qui découlent de ça, en fait, qui découlent d'un intérêt pour ça et d'une orientation des recherches.
Et concernant ce que tu dis sur la dégradation, je pense, hein, peut-être que tu voulais parler sur ça, il y a quelque chose qui nous a marqué très très rapidement, ben déjà dès l'open water à Pulau Réan, c'est qu'on était avec des personnes qui plongeaient sur place depuis parfois 20 ans, parfois plus, qui avaient connu l'île il y a 30 ans, parfois 40. Et quand tu les entends parler, quand tu sors de l'eau, que tu es émerveillé, que tu te dis « oh là là, cette profusion de vie, ces couleurs, c'est extraordinaire », et que les gens quand même te disent « oui, c'est magnifique, mais tu aurais vu ça il y a 10 ans », et même tu aurais vu ça il y a 5 ans, et ça fait très mal, parce que le constat, c'est que la dégradation, elle est exponentielle, en fait. C'est que oui, il y a 20 ans, c'était un paradis, mais il y a 5 ans, c'était encore incroyable ce que tu pouvais croiser, et c'est des animaux que tu ne croiseras plus aujourd'hui, c'est impossible. Et ça... Ça fait très, très, très mal. Aujourd'hui, tu vois, là, on plonge depuis quelques mois pour notre formation sur la barrière mésoaméricaine. En 2 mois, j'ai vu des zones blanchir de coraux. C'est hallucinant. Je pouvais pas m'imaginer, en fait. Je pouvais pas m'imaginer que ça pouvait aller si vite. Des zones où je m'étais dit, tiens, les coraux sont beaux. Ah, dis donc, il y a encore ci, il y a telle espèce, il y a ça, c'est bien, c'est bon signe. Et repasser 1 mois plus tard et te dire, mais attends, c'était pas comme ça la dernière fois. Et regarder tes photos et te dire, non, c'était effectivement pas comme ça la dernière fois. Ça fait très, 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 très mal. Et pourtant, on est sur une des dernières zones qui sont vivantes, hein, qui est vivante, pardon, sur la barrière mésoaméricaine. Donc, c'est clair que c'est très angoissant. On se lance aujourd'hui. Alors, on en reparlera peut-être. Moi, je ne me vois pas instructrice de plongée parce que c'est un milieu qui est un petit peu compliqué. Je suis plus dans l'image, etc. Donc, je ne me vois pas au quotidien être instructrice de plongée. Mais en attendant de se projeter dans ce milieu professionnel et de se dire, qu'est-ce que je vais dire aux gens dans 10 ans? Bah, la même chose que ce que j'ai entendu en Asie, ce qu'on a entendu en Égypte et partout. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, c'était la folie. Par rapport déjà à il y a 10 ans où c'était encore inimaginable pour nous, pour notre expérience de plongeur. Donc ça fait peur de constater cette dégradation au quotidien, ça fait mal. Et c'est sûr qu'il y a des moments où ça me fait me remettre en question là-dessus en me disant, ouais, j'ai cette grosse sensibilité, est-ce que je serais capable sur le long terme de constater au quotidien cette dégradation et l'impact sur les océans?
Je suis d'accord avec toi, c'est vraiment pas rare de plonger, en effet, d'entendre cette remarque, de se dire, ouais, il y a quelques années, c'était pas comme ça, c'était pas la même. Je l'ai eu pas mal en Corse, en allant plonger en Corse, où il y a souvent des gens qui
Ouais.
ont plongé toute leur vie là-bas, et a priori, la vie marine est quand même bien, bien appauvrie depuis pas mal d'années, là.
Ouais, elle est pas facile à gérer cette sensation d'attaquer trop tard une passion,
C'est vrai.
en fait. Un peu comme un fan d'opéra, mais qui est pas né dans le bon siècle, en fait, et qui se dit, ah, si j'étais né au 19e siècle, ma vie aurait été incroyable. Et c'est dur de se dire, putain, je suis mordu de quelque chose, j'ai envie d'en faire un métier, puis ça se trouve, ça, dans 10-15 ans, sera plus possible, en fait. Ça se trouve, il n'y aura plus rien. Alors, je dis ça, non, évidemment, il y aura toujours des bribes de vie, hein, mais en tout cas, ouais, c'est vrai que de discuter avec des gens qui plongent depuis 20-30 ans, tu te dis, ça va vite. Et ça pourrait aller vite pour nous aussi. Et oui, ça, c'est. Du coup, tu fais un peu plus attention dans ta vie, en fait.
Être le témoin de l'effondrement, c'est pas un rôle facile tous les jours, en vrai.
Ouais, clairement. Clairement, ouais.
Mais je trouvais qu'en Thaïlande, justement, j'ai pas été énormément choquée par la pollution. J'avais été choquée par le blanchiment des coraux, ça oui. Mais là, j'étais au Sri Lanka récemment et c'est la première fois de ma vie que j'ai pleuré à cause d'un problème écologique. On allait tous les matins faire du snorkeling avec les tortues et avant de voir ces fameuses tortues, je voyais plein de choses briller dans la mer et au sol et c'était des morceaux de plastique, quoi. Bon, on était sur une plage particulièrement touristique. Mais alors là, c'était flagrant, quoi. Et donc, d'un coup, tu voyais la tortue arriver. Et donc, en fait, tu voyais la tortue qui essayait de piocher dans le sol pour essayer de manger les herbes qu'elle recherche. Et à côté, tu voyais les morceaux de plastique, les morceaux de je sais pas quoi. Donc, tous les matins, on ramassait des déchets, on les remontait sur la plage. Et là, la première fois que je suis remontée, je me suis dit, enfin, j'ai eu les larmes aux yeux, quoi. Je me suis dit, mais merde, quoi, là, c'est flagrant, là, c'est clairement devant mes yeux. T'as la tortue qui est magnifique et bim, à côté, full plastique. Et c'est pour ça que je vous demandais aussi, ouais, qu'est-ce que vous avez vu avec vos propres yeux, quoi, parce que je trouve, on est toujours un petit peu impacté, bien sûr, par les chiffres qu'on peut voir, tu vois, les assos qui vont partager des choses et tout. Mais moi, en tout cas, personnellement, je trouve que tu as un peu de mal à y croire, où tu te dis, oh, ils sont quand même peut-être un peu pessimistes et tout. Et après, ben voilà, quand tu vas dans l'eau et que toi-même, tu vois les choses de tes propres yeux, c'est là où moi, j'ai eu le déclic, et c'est là où moi, ça m'a impacté, quoi. Et je me suis dit, OK, c'est pas des conneries, hein.
T'as la pollution visuelle, qui est pollution plastique visuelle, mais t'as aussi la surpêche, t'as aussi sur des coins comme Bornéo, le bombing. T'es dans des rifs magnifiques intouchés, puis t'as un cratère vide au milieu. Tu te dis, ouh! Mais ce cratère est trop complètement, comment dire, circulaire pour être naturel. Et c'est
D'ailleurs,
de la pêche dynamite. Voilà, tu as l'acidification des océans qui ne se voit pas non plus, mais qui joue un rôle majeur sur le blanchiment des coraux, etc.
Et sur la pêche à la dynamite, je me permets de rebondir là-dessus parce que ça, pour moi, c'est une des expériences les plus angoissantes que qu'on a vécues sous l'eau. Moi, c'est un truc qui m'a clairement un peu traumatisée. Quand on était à Bornéo, bon, déjà, outre le fait que Bornéo, pour moi, ça a été un petit peu la fin des illusions hein, sur le monde marin, sur l'état de notre planète, sur beaucoup de choses. Bornéo, quand on est arrivé là-bas, outre la palme, j'en parle même pas, hein, parce que malheureusement, on n'a pas vu de forêt primaire, on n'a vu que de la palme pendant notre voyage là-bas. On est arrivé sur les îles qui sont mais farcies de plastique. Il y a au moins, je ne sais pas, 20 mètres de plastique sur chaque plage, plus dans la mer, si tu veux. Donc, c'est recouvert partout. Donc, tu es sur tes îles paradisiaques, entre occidentaux la plupart du temps, petit bungalow, etc. Et en fait, sous toi, il y a du plastique de partout. Hein. Tu vas sur des sites pour voir des créatures extraordinaires et souvent, tu les trouves dans des déchets. Hein, je pense à la pieuvre à anneaux bleus, je pense à la sèche flamboyante, tous ces trucs-là. Bon, tu les trouves dans des déchets, les hippocampes, c'est pareil.
Non, les hippocampes, tu les trouves séchés dans les restaurants.
Voilà. Donc, déjà, c'est un
pour le tourisme asiatique.
Et on s'est retrouvé à les plonger sur un panel d'îles un peu plus loin, si tu veux. On était pratiquement seuls. Et en fait, sous l'eau, on a ressenti l'effet de deux bombes sous-marines, quoi, de mecs qui pêchaient plus loin à la bombe. Et en fait, on s'est pris la déflagration de deux bombes à 30 mètres de fond sur des îles complètement paumées.
Wow.
Tu peux pas imaginer la sensation.
Juste l'onde de choc. Hein. C'était posé à quelques kilomètres quand même.
C'était certainement à plus d'un kilomètre. Mais alors, entre le bruit et le mouvement de l'eau, de la colonne d'eau, alors qu'on était si loin, ça a été un choc incroyable. Moi, je suis sortie de là, les larmes aux yeux, c'est sûr, et puis complètement pétrifiée de me dire que ça se passait comme ça. Sur la plongée juste avant, j'avais trouvé une bouteille sous l'eau, un déchet, donc j'ai voulu le remonter avant de me rendre compte que c'était une bombe artisanale qui n'avait pas pété.
Oh la vache.
Voilà. Donc ça, c'est les conditions de plongée à Bornéo. Donc ça ne fait pas rêver.
Ça ne fait pas rêver, c'est clair. C'est clair. J'avais jamais entendu ce genre d'histoire encore.
Franchement, c'est le moment où j'ai le plus peur de toute ma vie de plongeuse, c'est clair, sans hésitation.
Tu m'étonnes. Ah non, j'ai entendu une autre histoire récemment au Sri Lanka, justement, parce que l'endroit où on a plongé, il y avait beaucoup d'épaves, et c'est vrai que je leur posais la question, mais il n'y a pas de coraux. Et donc, d'après le club avec lequel on était, le tsunami de 2004, du coup, a totalement a retiré, en fait, tous les coraux. Donc, il n'y a plus de coraux depuis le tsunami, a priori. Et eux, donc, étaient sur place le jour où il y a eu le tsunami sur la côte d'où nous, on partait plonger. Donc, ils m'ont expliqué déjà leur expérience de ce tsunami. Mon instructeur avait sauvé une famille, avait pris un bateau vite fait pour aller récupérer tout le monde qui était dans l'eau. Enfin, bref. Et le gérant du centre où on était, lui m'a dit qu'il avait rencontré des gens qui étaient en plongée en Thaïlande quand il y a eu le tsunami. Et a priori, ils étaient assez profonds, je sais pas, 30 ou 40 mètres en plongée pendant le tsunami. Ils ont bien senti un truc. Ils ont senti un mouvement d'eau, comme tu décrivais un peu tout à l'heure. Mais rien de plus, quoi. Ils sont remontés à la surface. Il n'y avait plus personne sur la côte. Il n'y avait plus de bateau. Et le tsunami était passé. Donc, je ne sais pas si cette histoire est vraie ou pas. Mais en tout cas, ça paraît fou. Je me dis, OK, s'il y a un tsunami, il vaut mieux être en plongée à 30 mètres. Par contre.
Carrément. C'est ce que je suis en train de penser. Il faut se tenir prêt parce qu'au final, c'est peut-être mieux d'être sous l'eau.
Exactement, ouais. Je me dis, ouais, si un jour j'ai une sensation comme ça de bouger sous l'eau, je suis pas sûre que j'aurais très envie de remonter du coup. Je préfère rester là. C'est intéressant ce que tu dis. Et c'est vrai que généralement, quand on est sous l'eau, il n'y a pas de bruit. Je trouve que c'est un milieu, et alors peut-être bizarrement pour certaines personnes, mais on se sent en sécurité. Enfin, moi, je trouve que je me sens en sécurité. Et du coup, si ce genre de choses arrivent et que oui, t'entends. T'entends et tu sens ou tu vois une bombe exploser proche de toi, ça va pas être, ça va pas être la même sensation.
L'impact sonore, il est vraiment très très impressionnant. Ouais. Ça, c'est incroyable. Clair. Et puis, bien sûr, tu as tous les animaux autour de toi qui sont aussi paniqués que toi, évidemment. Donc, il y a vraiment un effet de panique tout autour de toi et à l'intérieur de toi qui est assez impressionnant.
Ouais. J'imagine, ouais. Fin de la plongée, tout le monde remonte.
Figure-toi qu'ils ont continué.
D'accord, ok. C'était normal pour eux.
Ouais, je pense malheureusement qu'ils sont très habitués. Okay. Ils te disent qu'il n'y a pas de bombing et compagnie, mais ce n'est pas vrai. On a entendu tellement de fois les déflagrations, beaucoup plus loin, cette fois-ci c'était la plus proche, mais je pense qu'ils sont très habitués à ça là-bas.
Et du coup, alors vous êtes en ce moment en train de passer votre dive master, vous parliez tout à l'heure de votre formation, donc c'est pour devenir guide de plongée. Est-ce que ça, c'est dans le but de justement maintenant se dire « Ok, on veut vivre de la plongée » ou bien c'est pour acquérir de l'expérience supplémentaire ?
Écoute, c'est pour acquérir de l'expérience supplémentaire et se laisser une ouverture potentielle à en faire une professionnalisation. Avant tout, c'est pour avoir cette possibilité de se dire, on va dans un pays et on peut travailler en tant que dive master pendant quelques mois si on veut découvrir l'endroit, si on veut faire un petit peu d'argent pendant qu'on voyage. Ça peut tout à fait mener à quelque chose d'autre. Si tu veux, il y a quand même une passion. Moi, j'ai une passion vraiment du partage de passion. J'ai la passion du partage de la passion. Et une passion pour tout ce qui touche à la plongée, que ce soit le monde marin, que ce soit l'équipement, la technologie, etc. Donc là, à l'instant T de notre formation, c'est vraiment pour acquérir de l'expérience et se donner une carte en plus par rapport à ça. Mais voilà, c'est tout à fait possible qu'on parte vers une professionnalisation totale dans les années à venir.
Moi, je te mens pas, je vais pas te mentir là-dessus. On a quand même beaucoup de proches hein, qui sont dans ces milieux-là. Moi, aujourd'hui, le milieu de la plongée me fait peur. Très sincèrement, parce que je vois des amis proches bosser comme des fous. Bien sûr, c'est leur passion, mais ils bossent comme des malades. Physiquement, c'est très, très dur. Y a peu de repos, c'est très demandeur physiquement. Il y a des questions de santé aussi, hein, puisque c'est, y a un impact quand même. Et surtout, la réalité professionnelle du milieu de la plongée m'a un petit peu écœurée ces dernières années de ce que j'en ai vu. J'ai quand même vu beaucoup de personnes galérer, des gens très, très... très bien et très accrochés, très travailleurs, devoir piocher dans leurs économies pour vivre au quotidien en étant prof de plongée, je trouve pas ça normal. Et moi, j'avoue que j'ai pas la même passion de l'instruction que Théo. Donc moi, je suis plus tournée vers l'image, c'est quelque chose qui m'intéresse. Je me vois bien peut-être un jour, on se voit bien peut-être un jour ouvrir un club, ouvrir un centre. Théo peut-être aura envie à un moment de bosser en tant qu'instructeur. Moi, je ne suis pas certaine. Je trouve ça un petit peu ingrat. J'adore le fait de partager aussi. Hein. J'adore le fait d'initier des gens à cette passion, de leur faire découvrir un monde aussi beau et de pouvoir les sensibiliser à travers ça. Je trouve ça magique. Mais je ne sais pas si je tiendrai vraiment sur le long terme d'un point de vue professionnel. Voilà. J'en suis là de mes réflexions. Mais quoi qu'il en soit, c'est une formation passionnante et c'est très intéressant de voir de commencer à mettre le pied sur le côté professionnel de ce milieu-là. Très intéressant.
J'imagine, ouais. Est-ce à quel point c'est différent ? C'est différent sur ce que vous ressentez quand vous êtes en plongée. C'est marrant, Théo, tu dis, ouais, c'est marrant de voir l'autre côté ouais, du bras, ouais. Mais je me demande bien ce qu'il y a de l'autre côté, du coup.
Bah, disons qu'on nous l'avait beaucoup dit, quand tu commences à faire la format dive master et puis que tu plonges en tant que guide, en fait, tu ne plonges plus du tout de la même manière. Et je pense que ce que m'avaient dit les gens est effectivement vrai dans la majorité des cas. Tu as vraiment une manière d'aborder ta plongée qui est différente. Moi, je sais qu'avant, j'étais beaucoup plus... j'aime bien les petites bêtes. J'aime bien les bêtes un peu bizarres. Donc, j'étais beaucoup plus la tête dans le récif, à chercher des choses, à plonger pour moi ou avec Marine, mais en tout cas, à partager ça tous les deux. Et quand tu plonges en tant que guide, tu es au final beaucoup plus attentif à tout ce qui se passe autour et peut-être un peu moins attentif à tes propres ambitions personnelles sur ta plongée. C'est-à-dire que je suis beaucoup moins en recherche de petites choses, tu es beaucoup plus... à regarder les gens, à vérifier ce que tout le monde aille bien, à leur montrer des choses qui peuvent les intéresser, qui ne t'intéressent pas que toi. Je suis conscient que tout le monde n'est pas intéressé par les petites créatures. Donc ouais, ça change complètement. C'était vraiment sur une vision de la plongée beaucoup plus globale et beaucoup moins personnelle. Moi, je trouve que la plongée, on va certainement en parler un petit peu après, c'est un sport qui est très communautaire, mais pendant l'immersion qui peut être très, très méditatif et personnel et introspectif. Là, ça allait beaucoup moins, pour le coup, ça change vraiment, moi ça a vraiment changé ma façon de plonger en tout cas.
Okay. J'ai un peu ce truc-là de quand on descend sous l'eau, je ne vois plus mes objectifs personnels, mais par contre, je vois les problèmes potentiels.
Ça doit pas être les mêmes plongées, ouais, j'imagine. Mais Théo continue de montrer les petites créatures aux gens parce que je t'assure, je pense qu'il y a que toi qui les vois. Et les gens sont très contents que tu leur montres parce qu'ils les auraient jamais vus.
T'as une crevette transparente de 3 mm avec un petit peu de rouge sur la pince, c'est fascinant.
encore faut-il l'avoir, mais je pense que j'en suis pas là encore. Et à chaque fois, les instructeurs me montrent des choses, je suis là, waouh, je l'aurais pas vu moi-même. Hein. Je commence, mais c'est pas simple.
On a tous eu ce moment où tu ne vois pas la créature et tu fais un petit signe de la main entendu. Super, merci, laisse-moi tranquille, je continue à ma plongée.
Et Théo, c'est vrai que tu abordais ce sujet-là, c'était forcément une question que j'avais envie de vous poser, parce qu'on peut se dire que la plongée, c'est une activité un peu individualiste, tu ne peux pas parler sous l'eau, donc on se demande bien finalement comment on peut partager cette activité, quoi. Et vous, vous plongez a priori en grande partie tout le temps ensemble, tout le temps tous les deux. Comment vous vivez du coup ces plongées en couple? Est-ce que ça rend les plongées encore plus belles? Est-ce que ça renforce votre couple?
Ah oui, oui. Oui, oui, clairement. Oui, déjà de vivre la plongée à deux, tu as une confiance mutuelle qui se crée de par ce fameux système de binôme, et où tu es quand même, tu comptes sur la personne avec qui tu es en binôme avant même de compter sur ton guide ou instructeur. Et puis tous les à côté, en fait, si tu veux, l'après-plongée, quand on passe des heures avec Marine sur les bouquins d'identification à débattre sur est-ce que ce poisson avait une nageoire dorsale un peu arrondie ou un peu rectangulaire, donc, je dis des bêtises, hein, mais vraiment à débattre sur ce qu'on a vu, sur ces heures qu'on peut passer ensuite à regarder des documentaires sur la vie marine ou à se déplacer à des événements comme le salon de la plongée ou avoir des films par exemple au cinéma ou des documentaires orientés autour du monde marin. Donc oui, vraiment, moi, ça nous a donné, on avait déjà beaucoup d'atomes crochus avec Marine, mais ça nous a donné une espèce de passion ciment qui gouverne un petit peu tout, quoi.
Disons que vu la place que prend la plongée dans notre vie et la passion, et la vitesse où ça s'est fait, etc., le fait qu'on ait été tous les deux aussi mordus, c'était inespéré, ça c'est clair, parce que si l'un de nous deux avait été resté à terre en disant « bon, profite bien mon chéri, à tout à l'heure », ce serait pas du tout la même chose. Tu disais tout à l'heure qu'on parle pas sous l'eau, mais au final, moi je trouve qu'on a quand même, on communique énormément. Pour des personnes qui se connaissent aussi bien que Théo et moi, pour le coup, c'est assez instinctif. Un regard, un mouvement, etc. On se comprend, en fait. On s'entend. Et on communique quand même beaucoup là-dessus. Et c'est vrai que, voilà, nous, dans le cas de notre passion, si ça n'avait pas été réciproque, ça aurait été compliqué à vivre.
Oui,
je pense. Clairement. Ça aurait freiné l'un de nous deux, déjà. Et au contraire, ça a été merveilleux de découvrir ça ensemble. Et comme dit Théo, et je pense qu'il a raison là-dessus, ça a été un ciment très, très puissant dans notre couple qui nous a permis de réorienter tous les deux notre vie autour de ça.
Clairement, et puis on s'entraîne l'un l'autre dans les habits du monde marin, quoi.
Ça, c'est sûr. C'est...
Allez, on va aller là. Ah oui, d'accord. On va aller plus profond. On va aller voir telle espèce. Il y a vraiment un truc de...
Je pense que, par exemple...
Chacun tire la couette du même côté, mais chacun son point de couette quand même, tu vois.
C'est marrant. Théo,
bizarre, moi c'est bien, on va voir des requins, tu vois, c'est comme ça.
Il y en a pour tous les goûts dans le monde en plus.
J'allais vous dire, c'est bien, vous vous tirez vers le haut, mais en fait, en plongée, c'est plutôt vous vous tirez vers le bas, quoi.
C'est un peu ça.
Mais dans le bon sens du terme, quoi.
Exactement, ouais. Ouais, c'est chouette. C'est ce que je me dis, ouais, c'est vraiment top que vous ayez ce coup de cœur tous les deux pour cette activité. Et puis, vous puissiez mettre à profit la motivation, les connaissances de chacun. Pour vos projets, même s'ils sont un peu différents, et voilà, pour vos projets respectifs, c'est vraiment
ça simplifie les choix de voyage, en tout cas.
Ça, c'est
génial. Et j'ai une dernière petite question, c'est plus pour toi, Marine. Je sais que la plongée t'a aidé à surmonter un moment difficile de ta vie. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi cette activité t'a aidé dans ce moment-là, et pourquoi la plongée?
Écoute, voilà, moi j'ai eu un moment de ma vie un peu compliqué entre un job très très prenant et épuisant physiquement et moralement, et des problèmes de santé personnelle, ce qui fait qu'à un moment, ça a été un peu trop pour moi. J'ai fait un très gros burn-out, j'ai fait une dépression et j'ai eu beaucoup de mal à relever la tête. Et en fait, à ce moment-là, il se trouve qu'on avait prévu de partir justement plonger avec Théo en Égypte, et clairement, j'aurais jamais imaginé sortir de cet état dans lequel j'étais tombée, parce que j'étais vraiment dans le fond du trou. J'étais pas bien du tout. J'avais beaucoup de mal à retrouver de la motivation, à retrouver de l'estime de moi, etc., parce que ça avait été un peu violent à ce moment-là. Et en fait, on est parti plonger, Et en un claquement de doigts, je suis revenue moi-même.
En une immersion.
En une immersion, j'ai réussi à. C'était hallucinant. Je veux dire, je dormais plus, j'étais dans un état assez pitoyable. Et dès que ma tête a franchi la surface, déjà, bon, bah, je tenais sur les dents parce que je voulais plonger et j'avais quand même ce truc. Et je ne voulais pas grand-chose, mais je voulais plonger. J'avais envie. J'avais déjà constaté à quel point une immersion de plongée pouvait apporter une certaine paix. Comme disait Théo, c'est très méditatif pour moi aussi. Il y a une distance qui se fait avec beaucoup de choses, avec tes émotions en premier. Et tu ressors de là souvent, tu es assez apaisé. C'est une belle façon pour moi de me détendre, ça, c'est sûr. Et effectivement, ce séjour m'a transformée, quoi. Je suis repartie de là, je rigolais, j'étais sereine, j'étais heureuse, j'avais retrouvé goût à la vie. Je pense que voilà, on peut dire ça comme ça, parce que voilà. Et ce que ça m'a apporté en termes de gestion de mes émotions, en termes de confiance envers moi-même, de me dire j'en suis capable, je peux le faire, waouh, et d'être fière de moi en fait, parce que c'était des émotions que je n'avais plus ressenties depuis quelques temps, et la plongée me les a apportées, et j'ai réalisé que c'était le plus puissant des médicaments pour moi, et que c'était la plus belle des thérapies, 100% naturelle. Il me suffisait de me coller un régulateur dans le bec et de descendre dans l'eau et ça allait vachement mieux. Même si c'était pas en Égypte ou autre, hein, puisque voilà, j'ai constaté ça aussi à domicile. Il y a des fois, on fait des plongées, comme je disais, hein, de la plongée scientifique avec des assos, etc., où on est à 4 mètres de fond, dans 15 degrés, la tête dans la vase pour voir des petites bestioles. Et je ressors de là, j'ai le sourire, je suis heureuse, j'ai passé un bon moment et je suis heureuse de le partager et voilà. Ça m'aide à remonter la pente quand ça ne va pas, ça c'est sûr.
Trop bien, et je te remercie d'avoir partagé ça et ouais. J'espère que peut-être ça peut inspirer certaines personnes. Je te rejoins sur l'état post-plongée dans lequel tu... Enfin, moi c'est pareil, je me sens toujours heureuse, légère, j'ai l'impression d'être partie de ce monde et d'en revenir... que mieux, quoi. Et c'est vraiment top si tu as eu la force justement d'aller vers ce truc-là. Tu savais que ça allait te faire du bien, mais c'est sûr que c'est pas toujours évident de le voir dans ces moments-là et de se lancer et d'y aller. Donc trop bien.
Voilà, n'hésitez pas parce qu'il y a tout ce truc-là aussi. Hein. On te dit, en plongée, si tu te sens pas bien, blablabla, etc. C'est sûr que on parle de sécurité. Moi, honnêtement, personnellement, en tout cas, ça a été un déclencheur très fort.
Disons que je pense que dans certains cas, tu as vraiment une vertu thérapeutique sur le sens où tu es en plongée. Tu ne peux pas te permettre, entre guillemets, pour toi et pour ta sécurité, d'être mal ou de te laisser aller. Et je pense que ça peut forcer, entre guillemets, c'est pas forcer, mais ça peut inciter certaines personnes qui sont dans des états moraux un petit peu bas à aller de l'avant en fait, parce que tu dois compter sur toi, tu dois reprendre confiance en toi dans ces moments-là et tu peux le faire via cette activité qui est du coup extrêmement introspective et méditative, quoi.
Je voulais aussi parler d'ailleurs en parlant de ça du protocole Batismed, qui est un protocole qu'on avait découvert il y a quelques années sur le salon de la plongée, qui est fascinant. C'est des personnes donc qui bossent avec l'aspect thérapeutique de la plongée, entre autres avec des personnes qui ont été victimes des attentats du Bataclan et qui sont fortement traumatisées et qui n'arrivent pas à s'en sortir. Et les bienfaits qu'ils ont découverts sur le long terme, avec la plongée, il n'y a pas de mots, quoi. C'est extraordinaire ce qu'ils font. Et ça fait écho un petit peu à ce que, très 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 légèrement, je ne suis pas une traumatisée du Bataclan, mais ça a fait écho un petit peu à ce que j'avais ressenti en termes de moment présent, d'ancrage dans le moment présent. Parce que quand tu te mets dans l'eau, quand tu t'immerges, tu es dans un autre univers et ton cerveau fonctionne de façon différente parce que tu n'es pas dans tes codes, tu n'es pas dans tes repères et tu es obligé d'être dans le moment présent. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui peut faire beaucoup de bien. Voilà.
Clairement. On en avait parlé dans un autre épisode. En effet, il y a une vidéo, un reportage sur l'opération qu'ils avaient fait auprès des victimes des attentats du Bataclan. Ils les avaient emmenés en Guadeloupe ou en Martinique, je ne sais plus exactement. Je crois que c'est Guadeloupe. Ouais. Et en effet, il y avait des témoignages poignants de personnes qui disaient « Waouh, ça faisait des mois qu'on ne dormait plus. » Et là, après une plongée, j'ai dormi 5 heures. Et tu sentais que pour la personne, c'est énorme. Donc,
on met en plongée et sophro, c'est quand même passionnant ce qu'ils ont fait sur le PSD.
Mais je vous invite aussi, je ne sais pas si vous et les personnes qui écouteront ont déjà écouté l'épisode précédent avec Xavier, qui est médecin. Il a fait son DU en médecine hyperbare et sa thèse sur les bienfaits de la plongée sur les personnes paraplégiques. Et là, pareil, les témoignages sont assez fous. Donc, c'est beaucoup moins sur le mental, enfin, bien que ça joue quand même sur leur mental, mais c'est aussi sur le physique. C'est en fait, quand ils sont dans l'eau, bah, finalement, ils peuvent voilà, retrouver une certaine mobilité comme les personnes qui ne sont pas atteintes, elles, de ce handicap. Et c'est assez fou, quoi. Donc oui. Merci d'en parler. C'est aussi l'objectif de ce podcast, de parler, en effet, bah, des bienfaits que ce soit à travers de la plongée ou d'autres sports nautiques, mais des bienfaits de l'eau, de la mer, de la nature, je pense. D'ailleurs, d'un point de vue encore plus large, quoi. On est beaucoup sur nos ordi, beaucoup connectés, et je pense qu'on en oublie parfois les choses un peu basiques, quoi, de la vie, qui peuvent faire beaucoup de bien.
C'est ça, exactement.
Clairement, ouais.
Ça marche. Et bien, Marine et Théo, je vous dis un grand, grand merci. J'étais trop contente de pouvoir faire cet échange avec vous, de vous avoir revu, même si on est à des milliers de kilomètres d'écart. Je vous souhaite une bonne continuation.
À toi aussi,
merci, Audrey.
Au plaisir.
Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à le liker, le partager un max et à vous abonner pour découvrir les prochains plongeurs du podcast La Tête en Mer. À bientôt.